La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux. Bonsoir.
Ce soir, retour au jazz français. Nous avons beaucoup parlé de la période d'avant-guerre, nous avons beaucoup parlé de la période d'après-guerre avec Claude Luther, Nouvelle-Orléans, Sidney Bechet, des époques plus récentes, des surprises parties, mais jusqu'ici...
On n'avait pas parlé d'une période un peu intermédiaire.
Et d'une musique également un peu intermédiaire qui va avec. C'est une période qui se situe entre l'immédiate après-guerre, où la danse est de nouveau autorisée.
C'est-à-dire en gros 45.
Oui, okay, oui 45. Et... l'arrivée des premières surprises parties au milieu des années 50. Et là, dans cette période-là, les gens, ils ne font pas la fête chez eux.
Voilà, ils ne se réunissaient pas pour faire inviter des amis chez eux, faire ce qu'on a appelé les surprises parties.
Non, ils se retrouvent au dancing. Parce qu'en fait, tu sais, juste après-guerre, bah, les gens ne reçoivent pas chez eux parce qu'ils n'ont généralement pas un sou pour le faire. Et qu'en plus, les parents n'ayant pas de maison de campagne, ils sont là aussi le week-end.
Faut pas oublier que la France est complètement en reconstruction. Elle a été bombardée, elle a vécu des moments très difficiles et les espaces, bah, y en a pas beaucoup.
Et on est rationné jusqu'en 49 avec des tickets. Et vous avez pas connu ça, hein. Vous vous rendez compte?
Nous, à peine.
Nous, on était là, on était pendus aux jupes de la maman en train de faire la queue pour avoir des choses qu'on avait ou pas. On ne savait pas très bien en y allant, hein. Et on attendait des heures. Eh bien, à cette joyeuse époque, il y avait quand même des gens qui avaient 20 ans, hein. Et donc, ils allaient au dancing, comme actuellement, d'ailleurs, on va au bal. Mais la musique de l'ère du temps était différente. Elle était naturellement énormément marquée par le retour des Américains en France, acclamés, les libérateurs. Et toute la musique qui va avec, et la musique des Américains, c'est...
le jazz, évidemment.
Et dans les dancing, comme en Amérique, il y avait des big bands français.
Un big band, ça comprend au minimum 10 musiciens.
Oui, et ça suppose de la musique arrangée.
Et ça peut aller jusqu'à...
18.
18.
Et quelquefois plus des violons, plus des choristes, plus ceci, plus cela. Et ce soir, nous allons vous emmener dans ces dancings-là en faisant une sorte de passage en revue des grands orchestres swing français de cette époque très particulière.
Et vous allez voir qu'il n'y a pas d'Américains là-dedans. Il n'y a que des Français.
Il n'y a que des Français, sauf à deux exceptions où le soliste est américain, parce qu'évidemment,
oui,
quand un Américain était de passage, on en profitait pour l'emmener au studio.
Évidemment.
Hein, il connaissait la langue. Et nous commençons par l'orchestre de Christian Ballest, qui était un brillant trompettiste et qui avait donc monté son propre big band de danse à cette époque-là.
Et nous avons choisi, dans tout ce qui nous est proposé, Rocking the Blues.
Un morceau tiré du répertoire de Count Basie, dont Christian Ballest était un fan. Thank you.
là un orchestre jeune, tonique. Ils ont envie de vivre.
Ah hein. Oui, ils ont surtout envie de revivre. Hein, voilà. Ça, c'est sûr. Oui, oui. C'est une libération. Là, on est en 45 en plus. Hein. Ouais. C'est juste en 45. Et c'est un des tout premiers enregistrements de ces orchestres swing français d'après-guerre. Et Christian Bellest prend un très bon solo de trompette, bien construit. D'ailleurs, il y a plusieurs trompettistes à cette époque-là qui jouent d'une manière un petit peu comme ça, swing, construit, bien ficelé. Et l'année d'après, les enregistrements commencent à fonctionner de plus en plus fréquemment. Les rationnements en matière première commencent à s'estomper, les choses sont plus faciles, il y a un peu plus d'argent. Bref, Ray Ventura rentre d'Amérique du Sud.
Les gens le connaissent, parce que Ray Ventura c'est quand même vieux, hein.
Oui, bon.
Mais les gens le connaissent,
on le connaît toujours,
parce que c'était l'oncle de Sacha Distel.
Oui, on le connaît aussi pour Madame la Marquise. Hein, tout va très bien. Voilà.
Tout va très bien, exactement.
Bon. Et c'est vrai, c'était l'oncle, tu as raison, c'était l'oncle de Sacha Distel, très bon guitariste par ailleurs. Donc Ray Ventura rentre d'Amérique du Sud en 1946, hein, maintenant que les choses se sont tassées, ils ont bien travaillé, ils sont tout bronzés, tout contents de la vie. Et il y a dans l'orchestre de Ray Ventura des gens qui sont déjà célèbres. Hein, et un guitariste qui s'appelle...
Oh, allez, devinez, quelqu'un qui a chanté La douceur de vivre.
Ah oui, qui a chanté Zorro est arrivé, bref.
Voilà, c'est... eh bien, c'est Henri Salvador.
Henri Salvador tient la guitare chez Ray Ventura. Et Ray Ventura est connu pour la variété, mais il est également très performant pour le jazz. Et voici, pour vous en donner une illustration, un morceau qui s'appelle « Mais c'est la lune, ça, mon garçon ».
« That's the moon, my son ». Le titre est anglais. Hein.
Oui, d'ailleurs, la plupart des morceaux de ce soir sont des morceaux qui viennent du répertoire américain. Mais ces orchestres-là jouent aussi des morceaux à titre français. Et puis, en fait, ils jouaient de tout. Dans le dancing, on danse de tout.
C'est ça, c'était un orchestre de variété, finalement.
Mais comme tous les orchestres de ce soir.
Avec des morceaux de jazz, très jazz.
Exactement.
Et puis des morceaux de variété, variété française, les trucs à la mode,
et puis des cha-cha, et puis des rumba, et puis tout ce que tu veux. Voilà. Et ils étaient très performants pour le mambo. D'ailleurs, le mambo a été beaucoup pour la prospérité de ces orchestres-là, parce qu'il n'y avait que les grands orchestres swing qui jouaient bien le mambo.
En fait.
Ah oui, c'est comme ça.
Alors c'est très intéressant comme mentalité, parce que ça rejoint énormément la mentalité, même encore actuellement, des musiciens américains. Beaucoup de musiciens de jazz nous ont dit « j'adore jouer le jazz, mais pour vivre, s'il le faut, je joue n'importe quelle musique du moment qu'elle est bien en place ». Ça me va.
D'ailleurs, c'est du professionnalisme. Je suis musicien, je fais de la musique. Mais mon jardin, c'est le jazz. J'aime bien quand des gens débarquent dans la boîte en donnant du jazz. Mais c'est pas tous les soirs.
Voilà.
Hein, voilà, c'est un peu ça. Et puisque cet orchestre Reventura pigeait très bien le jazz, nous allons encore en passer deux morceaux à la file.
Il y en a un qui est Undecided.
De Charlie Shavers, un grand standard du répertoire.
Et puis In the Mood, très connu également.
Par Glenn Miller, c'était le morceau de la libération. Et alors, on va faire un petit peu d'iconoclasme, hein, parce que le In the Mood que vous allez entendre là, de Ray Ventura, il est très spécial.
Thank you.
Mais là, t'as un flash, là.
Oui, j'aimerais bien vous raconter juste la vision que j'en ai eue des débuts de Reventura. Parce qu'il avait fait un orchestre qui s'appelait les Collégiens.
Oui, ils étaient tous très jeunes, c'est vrai.
Et alors, c'était vraiment amusant parce qu'il s'était déguisé en collégien anglais style cricket.
Oui.
Habillé en blanc avec des petits revers bleus, voyez.
Très club, très club.
Très, très club. Et c'était une joyeuse bande de zozos.
Ah oui, ça c'était une sacrée bande. Alors là, on les voit, parce que là, ils sont de retour d'Argentine. Alors, comme il fait un peu moins chaud que là-bas, ils sont tous dans des gros par-dessus. Ils ont l'air d'avoir très froid.
Ils ont un peu vieilli quand même.
Et ils ont un peu vieilli, exactement, exactement. Je te signale que, de plus, ces collégiens étaient tous, en fait, des lycéens et de mon vieux lycée, le lycée Janson de Sailly, à Paris. Ah, mais
on y a tout fait au lycée Janson de Sailly.
Ah oui.
Même de la musique de jazz.
Oui, on en fait encore, là, je signale. Le lascar suivant s'appelle Hubert Rostin. Alors, Hubert Rostin est célèbre pour avoir remplacé à la clarinette le violon de Stéphane Grappelli dans le fameux quintet de Club de France.
Et c'était pas évident.
Et c'était pas évident. Parce que Stéphane Grappelli, quand la guerre a éclaté, il était en Angleterre, il a fait comme Reventura, il n'est pas rentré. Il a attendu que ça se passe. Et leur retrouvaille à Grappelli à Django a donné lieu à une fameuse Marseillaise très célèbre qu'on a passée ici sur cette émission qui s'appelait Echoes of France. Mais naturellement, la guerre finie, Hubert Rostin, il fait comme tout le monde, il monte un big band.
Un peu moins important que celui des autres.
Il reprend son saxo alto et il s'attaque au standard.
Tu parles de standard, alors là, on ne peut pas trouver plus standard que « On the sunny side of the street ».
Exactement. Alors, vous direz que c'est de la musique de casino. Naturellement, le premier trompette s'appelle justement Vincent Casino. On trouve un pianiste qui viendra très connu, qui s'appelle Jacques Dieval. Et puis, le batteur n'est pas de la famille du fabricant de glace, mais il s'appelle quand même Arthur Motta. « On the sunny side of the street ».
Thank you.
le suivant s'appelle
André Équian. Alors lui,
belle figure.
Il était destiné par ses parents à devenir dentiste. Ben, je crois que les quenottes, il les a oubliées très très vite.
Oui, mais il a quand même été reçu à Dentaire. Il a plaqué pendant les études. Il devait être content, les parents, disons.
Oui, oui, justement. Et vous savez, pour aller jouer dans un endroit qui s'appelait le Perroquet.
Oui.
Et allez donc.
Et oui, alors les parents ne devaient pas être contents. Alors, la mère était hongroise et le père arménien, d'où le nom de Équian, qui en fait n'est pas Équian, mais Echkian.
Oui, mais il a simplifié et
il a,
ça
il
se
a
comprend.
Bien fait, il a bien fait. C'est un très grand musicien, André Équian. Il est connu pour jouer du saxo alto, mais il joue aussi de la clarinette. Très bien. Au saxo alto, il est très connu pour avoir participé au fameux équateur de saxophone qui a été le disque swing numéro 1.
Ah bah, s'il vous plaît.
En 1937. Il a une carrière de musicien exactement correspondant à ce que tu disais. Il faisait tout ce qu'on lui demandait de faire. À telle enseigne qu'à l'époque de l'enregistrement qu'on va entendre, il jouait chez Maxim's. De la musique sans aucun intérêt jazzistique.
Vous savez, c'est ces gens-là, vous entendez, enfin, maintenant, c'est des haut-parleurs, alors non, le problème ne se pose plus.
Ça devrait être interdit.
Mais à l'époque, on mettait les musiciens derrière des plantes vertes.
Exactement.
Pour qu'on ne les voie pas, mais qu'on les entende. Et puis, pas trop fort, messieurs, s'il vous plaît.
Exactement. Alors, s'ils jouaient un peu trop fort pour le patron allait leur dire une phrase rituelle que les professeurs de musique apprécieront. Pourriez-vous jouer un ton plus bas? Nous avons retenu pour André Équian un morceau où il joue magnifiquement. Le solo est de lui. Et ça s'appelle...
I should care.
J'en prendrai soin. De qui, de quoi, à vous d'apprécier.
Ça fait plusieurs morceaux où je remarque que c'est vraiment court.
C'est normal. Nous ne sommes pas encore à l'époque du micro-sillon. Nous sommes toujours à celle de 78 tours. 3 minutes 20 de rigueur. Et en plus, ces 78 tours-là vont dans des jukebox, car il y a des jukebox pour 78 tours, je te signale. Donc on n'a pas intérêt à ce que ce soit trop long. Hein, le jukebox, plus les morceaux sont courts, plus il engrange. Ah, c'est comme ça, hein. C'est
l'économie de marché et tralala.
Eh oui, exactement. Naturellement, quand ils étaient en direct dans les dancings, les types qu'on entend là, ils prenaient leurs arrangements, mais ils écartaient toutes les parties arrangées pour mettre des solos, ce qui rallongeait le morceau. C'est une
bien
technique
sûr.
Tout à fait banale. Là, on garde l'arrangement avec très peu de solos au milieu. À l'époque du micro-sillon, un peu plus tard, les bacs étaient pleins au rayon musique de danse de micro-sillons d'un orchestre très connu à l'époque.
Oui, et que nous ne connaissons absolument pas maintenant.
Ah ben non, c'est Jean-Louis qui a totalement disparu avec les surprises parties. Ça.
En plus, il avait un nom un peu bizarre, il s'appelait Noël Chibouste.
Eh ben Noël Chibouste, je peux te dire, les bacs en étaient pleins. Chibouste joue ceci, Chibouste joue cela, les tcha-tcha de Chibouste, les mambo de Chibouste.
Chibouste, c'est maracas.
L'homme à tout faire, exactement. Mais l'homme à tout faire, il avait été saxophoniste de jazz dans beaucoup d'orchestres très connus. Et à l'époque où nous nous trouvons, naturellement, il avait monté un big band de danse avec un répertoire de jazz assez intense dedans, d'où nous allons extraire
Black Swing,
un morceau qui veut tout dire. Et comme cette floraison de big band s'accompagne d'une floraison de petites marques spécialisées dans la musique de danse, donc plein de petites marques commencent à émerger comme ça, uniquement pour ce public de jeunes gens. Et là, c'est la maison Selmer, fabricant d'instruments de musique, qui a fondé sa propre marque. Et le disque que vous allez entendre, c'est le premier disque de chez Selmer.
Avis aux saxophonistes.
Ben, il ne fait pas que des saxos, Selmer. J'ai une trompette Selmer, madame.
Oui, monsieur.
Dessinée par Louis Armstrong et les frères Selmer en 1932.
Oui, monsieur.
Oui,
ce Noël Chibouste, il avait une autre particularité dans son début, c'est qu'il avait commencé par le violon.
C'est un violoniste, absolument.
Et où ?
Eh bien, c'était un des collégiens de Réventura.
Eh bien, voilà. En fait.
Oui, tout se tient, parce que tous ces gens-là, c'est un village. C'est même un village à un point incroyable. Je me rappelle, un soir, on sortait d'un concert à la Maison de la Radio avec la big band où jouait à l'époque, s'appelait le Jazz de Pique. Et en face, il y avait un café où les musiciens allaient. Tu sais, le genre de bistrot tardif où on va après les spectacles. Et au moment où on monte en voiture pour s'en aller, il y a un des trombones de l'orchestre qui faisait le Conservatoire National, qui a eu le premier prix d'ailleurs l'année d'après, qui voit dans le café Paquinet, Verstraete, tous ces types-là. Il s'arrête, mais comme un setter avec un lapin, tout, il s'arrête.
C'est eux.
Il tombe en arrêt. Et il me le montre du doigt, il me fait « Regarde là-bas ». Alors, il me dit « Regarde, c'est Paquinet, c'est ici ». Bon, moi, j'étais plutôt musique black, etc. Bon, les musiciens français, finalement, je les connaissais.
Mais qui c'était, enfin, Paquinet?
C'était des gloires. Et il se retourne vers moi, il me regarde et il me fait « Mais c'est des dieux, ces gars-là ». Paquinet était un de deux ou trois types au trombone qui était capable de jouer le boléro de Ravel, mieux que les musiciens classiques. Et c'était eux qu'on faisait jouer au studio quand on enregistrait. Parce que sur scène, les classiques faisaient la blague à l'époque. Mais ils ne pouvaient pas jouer exactement ce qu'il fallait pour un disque. Et on faisait appel à Léon Vauchamp, Paquinet, des gens comme ça, pour tenir.
Qui était
une position de trombone très difficile.
Et qui étaient des musiciens de variété.
Et de, oui, variété de jazz. Et d'ailleurs, en Amérique, c'était pareil. En Amérique, c'était Miff Maul et Tommy Dorsey qui enregistraient Ravel. Sans rien dire à personne. Ça s'est su comme ça, de bouche à oreille, naturellement.
Absolument.
Et de bouche de musicien à oreille de musicien uniquement. Et puis, si on vous l'avait déjà raconté, tant pis, on ne le dira jamais assez. Voici venir Maurice Mouflard.
C'est un nom charmant.
Oui, c'est un nom charmant, tout à fait.
Mais on n'est pas responsable de son nom, voyez. Mais, nous, on s'appelle bien Verdeau.
Oui, ouais, bon. C'est pas brillant. Bon, alors,
et on...
N'épiloguons pas. Ce Maurice Mouflard, on ne sait pas grand-chose sur lui, sauf qu'il était...
Chez Jo Bouillon. Alors vous me direz, mais qui c'était Jo Bouillon?
Ah, je ne savais pas qui était Jo Bouillon, mais enfin, où on va?
C'était le mari de Joséphine Baker.
Mais oui. Lynn Renault avait son Gasté et Joséphine Baker avait son Bouillon. Hein? Et ce Maurice Mouflard, naturellement, il a suivi la mode. Et alors, il a pas fait beaucoup de jazz dans sa vie par la suite, mais il a vécu une extase, car une fois dans sa vie, pour un morceau, il est passé à la radio avec Charlie Parker.
Peste.
Voilà. Et toute sa vie,
il en a parlé.
Là, avec son orchestre, il joue un morceau de Slim Gaillard. C'est assez inattendu d'attaquer un morceau comme ça, d'ailleurs, pour des Français. Ça s'appelle...
Cement Mixer.
Vous savez ce que c'est, un Cement Mixer, madame? C'est une bétonnière.
Thank you.
Je trouve qu'ils ne sont pas dégonflés, les mouflards et les mouflardiens avec Cement Mixer, parce que c'est pas un morceau évident. Et voici maintenant venir le beau, le seul, l'unique, le vrai.
Aimé Barelli.
Ah, Aimé Barelli, bel homme.
Bel homme. Quand j'étais une petite fille, il y en avait des affiches dans Paris, plein partout. Alors vous voyez, il avait, on le voyait en général à peu près en demi-pied, ce qu'on appelle, avec une veste blanche absolument impeccable, un petit revers, un petit peu comme les collégiens, mais en mieux, en plus scintillant. Et une coiffure, alors, gominée, lissée, formidable, sa trompette à la main, un sourire, Colgate.
On aurait dit Luis Mariano. Non, j'exagère à peine, franchement.
Il ressemblait un peu, d'ailleurs, il y avait un air de famille, franchement.
Il y avait un physique avantageux, quand même. Peut être utile, quand même, même en jazz, tout de même. Et alors, c'est le prototype du musicien, né dans la musique, monté à Paris un peu après ses 20 ans. Il a fait tous les orchestres possibles et imaginables. Il a eu le sien, comme il était très brillant technicien. Il a assuré, il s'est fait un nom et il a fait de la musique toute sa vie. Barelli a dû une grande partie du succès musical qu'il a eu à un arrangeur nommé Armand Migiani, que personne ne connaît, quoi qu'il ait quand même travaillé sous son nom aussi, mais qui était une sorte d'alter ego. Le tandem Barelli-Migiani, c'était un peu Ellington et Strayhorn, tu vois, toute proportion gardée. Et c'est à Migiani qu'on doit le morceau qui vient.
C'est, écoutez bien, On Basie Street.
Voilà, le calembour n'est pas loin. Vous avez tous compris qu'on pense très fort à la rue qui s'appelle
Basie Street, et qui est un des morceaux célèbres de tout le jazz.
C'est un morceau hyper célèbre. Pour l'instant, nous ne sommes que Basie Street. Il manque encore un N à ce mot-là. Barelli a aussi enregistré, comme tant d'autres, un morceau qui me tient très à cœur, qui s'appelle Les Feuilles Mortes.
Oui, alors, morceau français, complètement. C'est hyper célèbre à l'époque, c'est-à-dire que si on demandait à quelqu'un citez-moi un morceau que vous connaissez, ben, il y avait peut-être Petit Papa Noël et les feuilles mortes.
Hein. Ah oui, enfin, tout à fait.
C'est à peu près ça.
Composé par Josef Kosma, qui était d'origine tchèque, sur le piano du salon et du mien, parce que Josef Kosma était un voisin, et le piano que ma mère avait était meilleur que le sien. Oui, ça se passait à Paris, tout ça. Et donc, il a terminé de peaufiner son morceau sur le piano du salon. Et un jour, il est allé avec les paroles, et les premières personnes qui ont chanté ce morceau, c'est sa femme Lily Kosma et ma mère, qui ont chanté les paroles en même temps que la musique.
Et les paroles étaient de Prévert.
Et les paroles étaient de Prévert.
S'il vous plaît. Voilà.
Moi, j'avais encore 3 ou 4 ans, mais je dois dire, je m'en souviens de cette histoire. Et ce fameux piano est passé par Saint-Flour, figurez-vous, car au hasard d'un déménagement, parce qu'il ne peut plus rester à Paris, il a fait escale à Saint-Flour, où nous espérions que quelqu'un pourrait le prendre chez lui et en prendre soin. Mais finalement, l'amateur en question s'est avéré être Angevin, et le piano où les feuilles mortes furent composées se trouve maintenant près d'Angers.
Dans un château.
Dans un château, exactement. Je dis ça pour rassurer tous les gens à qui on avait parlé à l'époque, où on souhaitait vraiment trouver quelqu'un.
Il faut expliquer quand même que ce piano était un piano 3/4 de queue, et que ça, dans un salon...
Ça tient de la place, c'est vrai. Enfin, écoutez, ce piano historique n'est plus chez nous, mais il est quand même en sécurité, et voici maintenant les feuilles mortes par Hébé Barry. Chacun sait, le jazz est une musique de sauvage. Alors là, doublement.
Je vois que tu vas faire un jeu de mots facile.
Et facile, ce sauvage-là s'appelle Camille. Et il était assez connu par la suite dans la variété. Mais là, on en a encore à cette période jazzique.
Et tu dis il parce que c'est un garçon.
C'est un monsieur, violoniste distingué du concert international, puis apprend le saxo, la clarinette, devient pro, et naturellement, l'époque aidant, se tourne vers le jazz. Et on doit à Camille Sauvage des morceaux assez originaux, dont les titres ne le sont pas loin. Par exemple...
Écoutez bien, radiesthésie et mèches de cheveux.
Mais à ce titre-là, nous avons préféré...
Pour ne rien oublier, week-end dans les oubliettes.
N'oubliez pas. Tout à l'heure, on parlait des bacs de Microsion Musique de Danse qui étaient pleins de chiboust, mais ils étaient aussi pleins d'un autre orchestre à peu près aussi connu, sinon plus, qui s'appelait...
Jacques Elian.
Oh, Jacques Elian, c'est très connu.
Ah oui, oui.
Oui, très connu. Une particularité, Jacques Elian, c'est qu'il a en son sein toujours eu beaucoup de jazzmen.
Et pourtant, il faisait vraiment de la variété.
Oui, mais quand il décidait, dans un programme de danse, de faire une demi-heure de jazz, c'était... Nickel du jazz.
À fond le jazz.
Oui. Et ça en grande partie parce qu'il avait un très bon batteur, qui a été très connu d'ailleurs plus tard, qui s'appelait Christian Garros. Christian Garros, il a dû mourir en 88, je crois. C'était certainement un des deux ou trois meilleurs batteurs français. En général, je veux dire, depuis le début du jazz en France, c'est le top, hein, Christian Garros, vraiment. Et là, nous avons également un Américain de passage, puisque Jacques Elian connaissait tout le monde, et quand Ternier Royal est arrivé à Paris...
Trompettiste.
Il est allé voir son ami Jacques. Et Jacques, oh, ça tombe bien, on enregistre demain, tu vas nous jouer qu'un petit quelque chose.
Allez.
Voilà, et c'est lui qui prend le solo dans...
Always.
terminé par l'homme qui est partout à cette époque-là.
Eddie Barclay.
L'homme aux multiples dames.
Ah oui, vous savez, c'est celui qui s'est marié, je crois, une douzaine de fois.
Officiellement.
Dont on compte le nombre d'épouses, un vrai sultan.
Oui, avec un vrai sérail. Enfin, c'est comme ça. Et là, il a monté un orchestre pour enregistrer un morceau de variété. Mais de variété un petit peu polarisée jazz, puisque c'est un morceau de...
Michel Legrand.
Et là, quand même, en guise de générique de fin, on va donner les noms des gens, parce que c'est trop du jazz, qui ont eu le courage de faire le métier dans sa totalité. Et on rencontre des noms comme les trompettistes Roger Guérin, Fred Gérard, il y a Paquinet et Benny Vatzer au trombone, il y a les frères Rasco au saxophone, il y a Michel Hausser au vibraphone et Stéphane Grappelli au violon, le batteur est Kenny Clark, ce qui est assez étonnant. Et il y a un Américain qui joue un solo de saxophone ténor. Et cet Américain, c'est...
Lucky Thompson. Alors, Lucky Thompson, ah, il adorait la France. Ah, il était toujours un peu fourré dans les studios dès qu'il pouvait. Je viens.
Non, puis il était un tellement bon musicien, il était le bienvenu dès qu'il arrivait.
Bien sûr.
Figure-toi, Lucky Thompson, on n'a jamais su ce qu'il était devenu. Un beau jour, il a disparu. Quelqu'un l'a croisé en Espagne. Non, mais c'est extraordinaire, hein, il pensait. Et on pense qu'il est devenu marginal. Soit en Europe, soit en Amérique, on n'a jamais su. Mais personne ne connaît, personne ne peut indiquer le lieu et la
date. Où il a terminé sa vie.
Où il a terminé sa vie. Lucky Thompson, c'est une sorte d'étoile filante. C'est un merveilleux saxo ténor. Et le morceau s'appelle...
Oh là là, alors, en français, avec ses yeux-là.
Enfin, un titre français dans cette émission de musiciens français.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.